François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Hellebrun, vous êtes professeur associé à Sciences Po et avec vous, nous allons parler de l'arrivée du président élu américain Donald Trump dans le bureau ovale et plus particulièrement de sa vision pour l'éducation, à savoir débarrasser les écoles américaines du wokisme et de l'endoctrinement de gauche, ce sont ses termes. Alors tout au long de sa campagne, Donald Trump a décrit les écoles comme un champ de bataille politique à reconquérir contre la gauche, et maintenant qu'il a remporté la Maison-Blanche, il prévoit d'utiliser l'argent fédéral comme levier pour faire avancer sa vision de l'éducation à travers le pays. Et on a vu François Hellebrun depuis le 7 octobre, mais cela a commencé bien avant, les liens presque fusionnels entre le wokisme et l'islamisme politique des frères musulmans. Et Donald Trump de déclarer « Dès ma première semaine de retour dans le bureau ovale, mon administration informera chaque président d'université que s'ils ne mettent pas fin à la propagande antisémite, ils perdront leur accréditation et le soutien des contribuables fédéraux. » C'est clair.
C'est clair, mais comme toujours avec Trump, il y a beaucoup de déclaratifs, et évidemment, la mise en œuvre est beaucoup plus complexe. Surtout qu'il a fait des déclarations pendant toute sa campagne, c'est une campagne où on promet plein de choses, et où il mélange beaucoup de choses. En fait, il y a ce qu'il attaque principalement, c'est le wokisme dans les écoles et les lycées, donc là, c'est même pas les universités, et pour lui, le wokisme, c'est l'éducation sur les genres sexuels, c'est l'éducation contre le racisme, c'est l'éducation contre les discriminations, et là il veut utiliser un certain nombre de leviers. Mais effectivement, pour la question qui nous intéresse plus directement, nous, ce qui se passe dans les universités, vous avez tout à fait raison de souligner les liens qui se sont créés progressivement entre cette idéologie, j'aime pas tellement le terme wokisme d'ailleurs, cette idéologie en fait de déconstruction d'un certain nombre de grandes valeurs occidentales, et la montée en puissance de l'islamisme politique, de l'islamisme radical, notamment avec une association dont on a déjà parlé sur cette antenne, qui s'appelle Students for Justice in Palestine, qui est vraiment le bras armé des frères musulmans proches du Hamas, et qui a permis la mobilisation, tout d'abord pro-palestinienne, mais très rapidement pro-Hamas, et surtout d'un antisionisme délirant, d'un antisionisme violent, qui a des dérivés très souvent, comme l'a dit Donald Trump à très juste titre, en antisémitisme, en discrimination et ostracisation des étudiants sur les campus universitaires. Alors, les universités américaines, quand même, on n'est pas dans la situation de la France. En France, le budget des universités dépend à 70, 80, 90%, ça dépend des universités de l'État. Aux États-Unis, ce sont des universités privées, avec des aides fédérales qui sont assez faibles. C'est plutôt des aides par État et sous des aides locales. Mais les principaux sources de financement, ce sont ce qu'on appelle les tuitions, les frais de scolarité, mais aussi les donations des mécènes, des grands donateurs, des anciens élèves. Et donc son levier, il est déclaratif, mais politiquement et financièrement, il n'a pas vraiment de moyens d'action. Par contre, ce qui est vrai, c'est que cette campagne et cette prise de conscience, notamment d'un certain nombre de présidents d'université, d'un certain nombre de grands donateurs de ces universités, qui eux ont coupé les financements, ont commencé à faire mal. Et effectivement, il y a un certain nombre d'universités qui remettent en cause un certain nombre de pratiques qu'ils avaient, et notamment de tolérance face à l'intolérable, sous couvert soi-disant de freedom of speech, liberté d'expression, qui est le premier amendement de la Constitution américaine. Eh bien, il y a un retour en arrière, et c'est vrai qu'il y a un discours politique, et c'est là où Trump peut marquer des points, c'est son discours politique plus que sa menace réelle, qui n'est pas en fait très exercé. Mais le discours politique ambiant et notamment le retrait de grands donateurs, par exemple l'université que je connais bien qui est Harvard, il y a eu pour $1 milliard de donations en moins l'année dernière suite aux exactions, aux dérives et aux manifestations antisémites qu'il y a eu sur le campus d'Harvard. Et aussi des propos complètement déplacés de l'ancienne présidente d'Harvard qui a été forcée à la démission. Donc il y a effectivement le levier financier, mais le levier financier vient plus des donateurs que de Donald Trump, mais il participe à la pression qu'il y a sur les universités pour mettre en pratique des règles de fonctionnement, des règles de débat, des règles de respect de l'autre qu'il n'y avait plus en cours dans ces universités.
On sait que ce qui se passe aux États-Unis arrive, alors avant c'était entre 5 et 10 ans en Europe, maintenant c'est beaucoup plus rapide. Est-ce que cette prise de conscience dont vous parlez va toucher également les présidents d'universités en France et le wokisme est-il en passe? C'était une des questions que posaient d'ailleurs plusieurs journaux. Est-il en passe de connaître la fin de son âge d'or?
Alors, au niveau, j'aime pas tellement le thème wokisme, parce que ça recouvre plein de choses très différentes, notamment sur la sexualité et le genre. Moi, je m'intéresse plutôt à la fusion qu'il y a eu progressivement entre l'islamisme radical et l'extrême gauche française, et qui a été très fort dans les universités, qui étaient les mêmes mouvements, et là vous avez raison, c'est que les mêmes mouvements, les mêmes mots d'ordre, les mêmes manifestations, et surtout les mêmes outils, qui sont en fait principalement les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, pour diffuser leur propagande, plus radicaliser la jeunesse sur nos campus. En France, c'est un peu différent, parce qu'évidemment, il y a des lois déjà, il y a des règlements de vie étudiante qui sont plus durs et qui se font appliquer par la plupart des présidents d'université. Le gouvernement a toujours été très ferme là-dessus, que ce soit Sylvie Retailleau comme l'actuelle ministre de l'Enseignement supérieur. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu, comme on l'avait suivi, une commission sénatoriale et une commission parlementaire qui se sont penchées sur le sujet et qui ont proposé des propositions de loi de durcissement, et d'ailleurs pas seulement pour les universités, mais du durcissement de deux choses qui sont très importantes. C'est un, la propagande antisioniste quand elle appelle à la destruction de l'État d'Israël, qui deviendra illégale et pénalement condamnable, et aussi l'appel au boycott d'une nation, et donc des universités d'une nation, et en l'occurrence, évidemment, c'est Israël. Et donc ces lois, si elles passent, ça donne un cadre réglementaire, un cadre législatif, et des outils aux présidents d'université pour faire appliquer la loi, et donc qu'il n'y ait pas d'appel à la destruction d'Israël sur les campus français, ce qu'il y a encore trop souvent, et d'appel au boycott des universités israéliennes, ce qu'il y a aussi trop souvent. Donc en France, on n'en est heureusement pas dans la situation américaine, bien que les mouvements islamiques présents à l'université, comme leurs alliés principalement de deux syndicats, Solidaires, qui est proche de Sud, et l'Union étudiante, qui est la branche étudiante de LFI, qui sont les deux plus actifs, ceux-là, et aussi les représentants étudiants de NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste, qui sont assez puissants dans certaines universités, ceux-là, effectivement, face à l'adurcissement des règlements et de nouvelles lois qui peuvent être votées, vont devoir être beaucoup plus contraints qu'avant.
Alors, dans la suite logique de ce que nous venons d'évoquer, le Figaro a mené une longue enquête quant au traitement réservé par le quotidien Le Monde au conflit entre Israël et le Hamas. Et au cours de son enquête, nos confrères du Figaro ont recueilli de nombreux témoignages, mais tous l'ont été de façon anonyme, un cadre révélant même « les gens ont peur ». Pourquoi ? Car une partie de la rédaction aurait pris ouvertement le parti des Palestiniens depuis un an dans le conflit qui oppose le Hamas à Israël, à tel point que dans les bureaux neufs du quotidien Le Monde, organisé en open space, il y a un mur de Gaza qui a été érigé.
Tout à fait, j'ai comme vous lu cet article absolument passionnant d'Eugénie Bastier dans le Figaro. C'est une vraie enquête journalistique fouillée avec des faits, des chiffres, des photos effectivement, des photos de ce mur au service Société du Monde sur Gaza. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que normalement ce journal qui est celui de la neutralité, de l'objectivité, c'est un mur de propagande non pas pro-palestinien comme il peut y avoir dans certains endroits, mais un mur de propagande pro-Hamas et incitant à la violence, dénonçant un soi-disant génocide, montrant des photos comme il y a parfois dans les universités, justement on y revient, absolument épouvantable d'enfants martyrisés palestiniens, avec même des dessins complotistes. Il y a même un dessin où on voit la Statue de la Liberté qui brandit un missile couvert du drapeau israélien ensanglanté et avec écrit en haut, en anglais, « Liberté de tuer », donc comme si les Américains donnaient la liberté de tuer à Israël et qui tuaient des enfants, parce qu'il y a un enfant palestinien qui est tenu par le cou par la Statue de la Liberté. Donc c'est vraiment des images à la fois négatives qui dénoncent un soi-disant génocide et qui en plus font appel à des formes de complotisme, et c'est absolument scandaleux dans un journal qui est normalement n'importe quelle salle de rédaction doit être ouverte à tous, à avoir tout débat. Là, c'est un outil de propagande, mais c'est pas un outil de propagande pro-palestinien, c'est un outil de propagande pro-Hamas. Et l'autre chose qui est très bien soulignée dans cette enquête, mais ça c'était un peu plus connu surtout de certains spécialistes, c'est le cas de Benjamin Barthes, qui est rédacteur en chef adjoint du service international, et donc il a un poste très important, et qui lui a un vrai conflit d'intérêts, parce que d'abord il a toujours été un journaliste qui a couvert depuis plus de 20 ans la question israélo-palestinienne, mais toujours avec un prisme très favorable aux Palestiniens, mais ce qui est révélé de manière très prouvée et très argumentée dans cet article, c'est que sa femme, qui est une militante palestinienne activiste radicale, pro-Hamas, qui dès le 7 octobre a publié sur Twitter, on l'avait déjà vu, des tweets appelant au soutien aux actions et aux crimes du Hamas du 7 octobre, et qui en plus n'arrête pas de dénoncer dans des tweets antisémites la puissance soi-disant supposée du CRIF sur la vie politique française. Et normalement, il y a une charte de déontologie au Monde où quand un journaliste est conflicté par son conjoint ou sa conjointe, ou par exemple un journaliste qui a une femme qui fait de la politique ou vice-versa, il doit se retirer des sujets qu'il couvre, et là il est clairement conflicté, et pourtant c'est lui qui continue d'animer les principales pages du Monde, et donc c'est très bien dénoncé, très bien argumenté, et effectivement ce qui est intéressant, ce que vous avez noté dans votre introduction et votre question, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes de la vieille génération qui sont très choqués de ces dérives du Monde, de ces partis pris, et il y a aussi beaucoup d'exemples donnés par Le Figaro, de titres du Monde absolument scandaleux, notamment pour l'anniversaire des massacres antisémites du Hamas sur la terre d'Israël, le Monde du 7 octobre daté du 8 octobre, un an plus tard, c'était Gaza écrasé par un an de guerre et de chaos. Et donc un prisme non pas pro-palestinien comme le Monde nous avait habitué, mais depuis un an, et beaucoup de lecteurs du Monde se sont désabonnés à cause de ça, un prisme pro-Hamas et pro-radicalisme islamique, et qui est absolument insupportable. Et je encourage vraiment vos auditrices et à vos auditeurs à lire cet article d'Eugénie Bastier, paru dans le Figaro en ligne hier soir.
Pour finir, on va dire un mot sur François Bayrou, qui est nommé Premier ministre. C'est le quatrième depuis le début de l'année 2024. On a eu Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou. Ça fait quand même beaucoup sur toute une année.
Oui, c'est bien. Moi, ça me rappelle la troisième et la quatrième.
Oui, je sais que vous aimez bien ça.
Et puis, ça me rappelle Israël aussi. Donc, c'est Israël, Italie, des vrais régimes parlementaires. En fait, quand on est en vrai régime parlementaire et quand c'est pas juste un premier ministre aux ordres d'un président qui est son porte-serviette ou son directeur de cabinet, bah c'est ça. Hein. Il faut pouvoir construire des coalitions. Moi, j'espère que François Bayrou pour réussir à construire une coalition de gens raisonnables à l'Assemblée, parce que les gens raisonnables à l'Assemblée sont quand même majoritaires, et pour faire fonctionner le pays, parce que sinon c'est quand même très grave. Juste quand même sur François Bayrou, sous un angle plus lié à nos centres d'intérêt, à Radio Shalom, c'est son rapport aux Juifs et à Israël. Moi, je me rappelle très bien de François Bayrou, secrétaire général de l'UDF, ça s'appelait à l'époque, et au moment de la guerre en Irak en 91, tout le monde s'en rappelle, pour les plus jeunes, ils ne le savent pas forcément, l'Irak avait tiré des SCUD sur Israël, donc c'était des missiles sur Israël, pourtant Israël n'était pas parti au conflit qui avait lié au Koweït, et beaucoup de gens craignaient que ces SCUD soient chargés d'armes chimiques, parce que l'Irak avait des armes chimiques. Et il y a eu des délégations d'hommes politiques français qui se sont rendus en Israël à l'époque, et il y avait notamment des jeunes hommes politiques français, il y avait François Léotard, grand ami d'Israël évidemment, il y avait Nicolas Sarkozy, il y avait François Bayrou. Et donc il avait passé la nuit dans un abri avec un masque à gaz, solidaire des Israéliens. Donc ça c'est un souvenir que j'ai, que je n'oublie pas. Et le deuxième point que je sais de lui, c'est que c'est un grand admirateur de Peggy, il est agrégé de lettres, c'est un grand admirateur de Peggy, et notamment de l'amitié que Peggy a toujours eue pour les Juifs, et des très belles phrases que Peggy a écrites, notamment dans notre jeunesse, mais a prononcées à l'égard des Juifs. Donc sur ces deux sujets, j'espère que François Bayrou se rappellera de son maître à penser, un de ses maîtres à penser qui est Peggy, et de son intérêt pour le judaïsme, les juifs et la lumière et l'espoir d'Israël.
François Heilbronn, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes professeur associé à Sciences Po. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.